Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Salut à toutes et à tous et bon dimanche à l'écoute des grandes gueules du sport. Vous êtes aussi nos grandes gueules du sport, vous le savez, au 32-16 ou sur WhatsApp au 06-12-424-424. Merci de vous réveiller avec nous de plus en plus nombreux chaque week-end et à nous écouter en podcast. Alors je sais que certains notamment nous écoutent ce matin en plein semi-marathon de Nice, voilà, sur la promenade des Anglais là, avec les écouteurs. C'est pas mal pour écouter la douce voix de Fred Weiss notamment. Salut Fred.
Bonjour. Pourquoi dès qu'on parle de marathon, on pense à moi? Je peux comprendre.
Non, je pense. Je parlais de 12 voix. De Nice, pardon. Plutôt.
De Nice aussi. Et il y a le semi-marathon de Limoges aussi bientôt.
Semi-marathon de Limoges bientôt?
Non, pas du tout. Mais j'aimerais bien l'organiser. Ce serait très cool, un marathon à Limoges, non? Parce qu'en fait, on parle toujours de toutes les villes, jamais de Limoges, donc on m'a demandé de faire la promotion. C'est tout.
Ah voilà, bah écoute, bah c'est super.
T'es de nouveau bien avec le maire de Limoges, toi.
Mais je suis bien avec le maire de Limoges, qui vient de changer d'ailleurs.
Bonjour Jérôme Pinault.
Salut Georges, bonjour à tous.
Ça va?
Ça va très bien.
Tu veux nous vendre ta région toi aussi?
Non, pas vendre ma région, juste dire que Saint-Nazaire a fait un piètre match nul hier face à la Baule Pouliguen. On était un peu déçus.
Ah mais j'aurais
toujours en tête.
Pinault, il est là, il est dans le football du week-end. À chaque fois, tu sens l'odeur des du gazon, les crampons, clac 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 clac.
Ouais, la galette, le saucisse, les frites, top. Au top. Ouais,
tu vis ta meilleure vie.
Ambiance.
Tu vis ta meilleure vie, Jérôme, ou pas?
Je suis pas mal là en ce moment.
Ça se voit, il est tellement beau.
Pascal Duprat, lui aussi vit sa meilleure vie, j'en suis sûr. Ça va, Pascal?
Chaque jour est ma meilleure vie. Ouais. Salut Georges, salut les amis.
Alors Pascal, pour remettre un peu dans les secrets des rois,
j'ai vu ça
hier soir, regarder à la fois le rugby et The Voice, parce que c'est un grand fan de musique. Et alors Pascal, je disais pas ça pour t'afficher, mais je te préviens, Fred Weiss et Jérôme Pinault, ils sont arrivés sur le plateau en chantant des hits des années 80.
Ah, bien,
c'est parti,
bien,
alors, les gars. 3-4.
Non, moi je suis beaucoup trop timide. Ouais, par contre, Pascal qui aime chanter pourrait chanter, pas de problème.
Mais non, mais vas-y, Fred.
Non, je vais pas. Là, je le fais pas là, mais je le ferai si vous voulez, pas de problème. En tout cas, je vais m'y mettre. Comme je vous l'ai dit, c'est un rêve de gosse et je vais enfin aller dans une chorale là, un peu, comment dire, contemporaine pour chanter avec 200 chanteurs. J'ai hâte d'y aller. Mais je vais aller
génial,
à ma première répète dans quelques temps.
C'est vrai, mais c'est génial.
Depuis que je suis gamin, j'ose pas y aller. Tu te rends compte?
Oh là là, il faut faire les choses dans la vie. Il faut pas regarder.
Avec le temps qui passe, je me dis, allez, fais les choses.
Simon Dutin est là. Salut Simon.
Salut Georges. Salut tout le monde.
Simon.
Salut Simon.
Simon, le représentant.
Tu chantes
Simon, c'est vrai? Tu peux prendre hockey sur glace?
Les boxeurs de Bordeaux pour la
première fois. Ils vont loin chercher des titres Bordeaux.
Le truc c'est qu'avec Simon, je sais. Jamais, s'il va me dire, j'ai été champion de France de hockey sur glace.
Non, c'était un espoir en hockey sur glace à la patinoire de Pessac.
Non, mais attends, ma carrière s'est arrêtée. C'est une vraie histoire, ça?
Ah, j'ai joué au hockey sur glace et j'ai même dû faire un an de patinage artistique avant parce que j'étais trop petit pour intégrer l'équipe. Voilà, donc j'ai appris.
Toi, t'as fait du patinage artistique.
Donc, d'abord, dans l'ordre, t'as fait les triple loots.
Triple loots.
Et après, triple loots, quand t'as 6 ans, on y va plutôt au mollo.
Triple loots.
T'as pas l'accès de
simple loots.
Un simple loots.
Hockey sur glace. Tu mettais des. Je te vois bien mettre pam, t'imposer quoi.
Apprenez, voilà,
je me rapprocherai pas de toi.
Voilà. Ouais. Des petits challenges le long de la balustrade. Et puis un jour, je suis rentré avec une fracture au menton. Et ma maman a dit c'est terminé le hockey.
Ah oui, voilà. C'était avant la raquette que t'as cassée et que ta mère a dit c'est terminé le tennis.
Il me ferait peur sur la patinoire. Je me rapprocherai pas de lui, Simon. Mais non, mais je vous kiffe tous, les grandes gueules du sport. Merci d'être avec nous ce matin au programme des GG à 10h. On va parler basket, Fred, voilà, tu réclames
enfin,
sur le ring. Victor Wembanyama peut-il devenir le numéro 1 du sport français cette saison? On en parle ce matin, pourquoi? Parce que c'est le premier tour des playoffs la nuit prochaine. C'est une première pour Wemby et ses Spurs à 3h du matin. Hein. C'est bon, là on dort plus les amis. Ce sera face à Portland, face aux Blazers. Vous votez sur le compte XDGG du sport à 10h30. Eric Salio, notre voix du tennis, va venir nous dire qu'Arthur Fils change complètement de dimension alors qu'il se qualifie en finale du tournoi de Barcelone à 16h, un mois de Roland-Garros, ce sera face à Rublev, ce sera à vivre sur RMC évidemment, et on a hâte de voir Eric venir nous exposer ses propos tout à l'heure, notamment répondre à notre ami Simon qui hier a déclenché une tempête après ses propos sur Arthur Fils. Et ben on est là pour en parler tout à l'heure. C'est une émission de débat, les grandes gueules du sport.
Everybody was kung fu fighting.
Sur le buzzer.
Il vient de chanter.
Voilà, c'est trop vrai. Tard.
Tu vois, quand
t'as raté l'échantillon.
Si t'es dans The Voice, tu te retournes pour Fred, Pascal?
Bien sûr.
C'est sympa. Sur le buzzer tout à l'heure, c'est le début des classiques ardennaises. Jérôme, c'est les tiennes, celle-là habituellement en cyclisme. On arrête les pavés, on enchaîne les monts néerlandais aujourd'hui. C'est l'Amstel Gold Race, à la vôtre. Ce dimanche à suivre sur RMC, donc avec de vraies chances françaises, mais sans Pogacar. Est-ce qu'une course sans Poggi vous intéresse vraiment? Le zapping, le j'y crois pas. On va parler du PSG face à Lyon ce soir et le vestiaire sur la construction d'une équipe, tiens, d'un collectif pour gagner. Justement, c'est un peu Luis Enrique qui nous a inspiré. Ça pourrait donner des idées au Real Madrid. Par exemple, s'il nous écoute. Remportez votre séjour aujourd'hui dans les Jeux du Sport, en participer avec les GG pour gagner une semaine de vacances à Lagrange, vacances pour 4 personnes, l'occasion de prendre le large en France et cela toute l'année puisque vous pouvez programmer votre séjour sur un an, figurez-vous. Pour remporter vos futures vacances Lagrange, envoyez Sport au 7-32-16, Sport au 7-32-16. Mais d'abord, la Ligue 1. Le naufrage de l'Olympique de Marseille au Moustoir hier soir.
La une des grandes gueules du sport.
Déplacement difficile, c'est vrai, car les Lorientais n'ont pas perdu ici depuis le 30 août.
Lorient qui vient d'ouvrir le score sur sa pelouse face à l'OM.
Signé Patnos, 4 séries après 28 minutes. Lorient qui prend l'avantage, 1-0. On a failli assister au deuxième but lorientais il y a quelques secondes.
37-31. Le deuxième but pour les Lorientais, Bamba Dieng, le meilleur buteur de la Ligue 1 en 2026, a encore frappé.
Il est validé hein, ce but, hein. Il n'est pas en jeu, il est juste derrière, parfaitement dans le timing.
On est tout près de la catastrophe du côté marseillais, magnifique reprise de Pagis. On était près du 3ème à la 61ème, on en reste à 2-0.
On n'y arrive pas, les Marseillais, on est au bout des 5 minutes de temps additionnel. Voilà, c'est terminé, 2-0, victoire net et sans bavure de la part des Lorientais.
La fin de saison va être brûlante à l'OM, surtout depuis hier donc, et cette défaite que vous avez vécue sur RMC avec Simon Dutin aux commandes de l'Intégral Sport. 2-0 à Lorient lors de la 30e journée de Ligue 1. C'est le 3ème revers en 4 matchs pour les hommes d'Habib Bey qui revenaient tout juste d'un stage à Marbella. Ce matin, les Marseillais sont 4e à 2 points de Lille et la 3ème place synonyme de qualification directe à la Ligue des Champions que l'on sait déterminante pour les finances du club notamment. Ils peuvent même être 6e hein, ce soir. Je rappelle qu'il reste pour les Marseillais 4 journées à disputer contre, bah, je peux vous donner le planning, contre Nice, à Nantes, au Havre et contre Rennes. Les GG, je vous pose la question ce matin. Question très simple. Est-ce que Marseille, quand vous voyez ce qu'il se passe, c'est dynamique, l'atmosphère, court à la catastrophe? Simon Dutin.
Oui.
Pascal Duprat.
Oui.
Fred Weiss.
Ils y courent vite.
Quoi?
Ils y courent vite à la catastrophe.
Plus vite qu'hier.
Tu n'écoutes pas du tout.
Je pensais que
tu
avais dit un truc en néerlandais. Ils y courent vite.
Boult, ils y courent vite.
C'était oui en néerlandais. Ok, il y a une course aux Pays-Bas aujourd'hui, mais pas qu'à non plus. Jérôme Pinot.
Mais si la catastrophe, c'est ne pas faire la Ligue des Champions et par une année de plus sans titre, oui, ils y vont tout droit. Ouais.
Supporters marseillais, on vous attend évidemment nombreux au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Tiens, Laurent me dit, avec un peu de chance, on finira 6e ou 7e. Les joueurs, j'ai l'impression, sont en pré-vacances. Il y a beaucoup de messages hein, déjà de supporters olympiens très énervés, comme l'été. Le directeur sportif de l'OM, Mehdi Benassia, écoutez-le, venu très en colère hier face au micro des journalistes en zone mixte après la rencontre.
Que je comptais plus prendre la parole jusqu'à la fin de l'année parce que je pense qu'on a beaucoup trop parlé les 6 premiers mois. De toute façon, aujourd'hui, quoi que tu dises, bah, t'as tort, forcément. C'est le résultat après des matchs comme ça, tu peux que avoir tort. Par contre, comme j'ai expliqué aux joueurs, c'est que quand t'es ici, toujours un sens de responsabilité. Moi, j'ai pas de problème. On me dit que j'ai ramené un entraîneur sur un projet qui devait durer plus longtemps, qui est malheureusement parti. Quand je vois les matchs qu'on fait aujourd'hui, même si j'ai pas envie de parler, Karim, je suis obligé de venir à la presse parce que c'est un scandale. On fait des stages, donc ça nous coûte des sous, des stages. Mais pourquoi? Parce que tu veux bosser, tu veux te retrouver, tu veux créer du lien avec les mecs parce que c'est ce qu'il a manqué. Parce qu'à ton avis, là, combien sont rentrés dans le vestiaire? Ils ont retourné la table. Combien à ton avis? Qu'en fait, tu joues à l'Olympique de Marseille, tu fais un match comme ça et tu l'acceptes. Et certains peuvent penser que nous on accepte. Et j'imagine que le coach, je connais le coach, comme tous les coachs aujourd'hui, c'est la mode. Ils vont prendre la responsabilité et puis on va passer à autre chose. Et puis nous, on est tous des caves. Mais moi, à pas m'enfumer. Quand tu joues Lorient, qui a plus rien à jouer, à 17h, et que tu gagnes pas un duel et que tu as pas une course vers l'avant, pas entreprenant, tu tentes rien. Mais c'est facile, je sais. C'est pas beau, le logo, il est pas bon. C'est pas mes histoires, ça. Moi, je parle football. Et quand tu rentres ici, quand t'as 5 finales à jouer pour un objectif de Ligue des Champions, et ça doit se voir. Sauf que ça se voit pas. Parle de quoi? De couilles, d'amour propre, de respect, respect du maillot qu'on porte, du respect des gens. T'expliquer le pourquoi, Karim, je peux pas t'expliquer le pourquoi. Malheureusement, celui qui t'explique aujourd'hui ce genre de prestations, comme celle de Bruges, comme celle de Paris Saint-Germain, comme celle de Nantes à domicile, cette année, il y en a eu quand même 6 ou 7, ils sont inexplicables. En tout cas, moi, j'ai pas fait assez de football pour l'expliquer.
Voilà, une minute hein, là, Mehdi Benassia, mais la sortie fait 4 minutes. Il nous envoyait un slam, hein, Mehdi Benassia, à la fin du match pour dire ce qu'il se pensait de ses joueurs. Est-ce que l'OM court à la catastrophe? Alors, Pascal Duprat, tiens, j'aimerais t'écouter en premier. Vous dites tous oui, hein, c'est assez rare, hein, franchement, que sur un débat, vous soyez tous d'accord, mais je pense que c'est difficile de ce matin d'avoir beaucoup d'optimisme à Marseille quand on voit la teneur des messages, notamment. Pascal?
Alors, quand on écoute Benassia, bien, on peut avoir que le seul sentiment qu'en fait c'est chacun pour sa gueule quoi dans ce club. C'est vraiment insupportable parce que Benassia il est pas absous de tout non plus. Il a aussi ses responsabilités et donc voilà que Benassia après ce match catastrophique à Lorient, il vient déglinguer les joueurs devant la presse. Il peut pas les déglinguer ce matin à la Commanderie. Donc ça part déjà de
c'est son fond de commerce Pascal.
Mais c'est son fonds de commerce, mais franchement, c'est pénible de la part d'un joueur, un ancien joueur expérimenté. C'est facile de tirer sur les joueurs. On me dit, il dit dans sa déclaration, ouais, on va jouer à Lorient, qui a plus rien à jouer. Mais il est où le respect des clubs de Ligue 1? Parce que vous pensez que sous prétexte que Lorient n'aurait rien à jouer, Lorient qui n'avait perdu qu'un match à domicile depuis le début de la saison, ils allaient, comment dire, c'était une proie facile pour l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'est trop simple, c'est trop facile de parler comme ceci. Moi, j'en viens au jeu maintenant, au jeu. On voit rien. Pourtant, Dieu sait si Abibé, il nous explique les choses. Il nous les explique tellement que moi, je comprends rien du tout. Parce que c'est peut-être le football contemporain, je comprends rien. Les demi-espaces, les box, pas les box, les comment dire, compositions d'équipe avec des schémas hybrides. Bon, les hybrides, apparemment, ça dure pas beaucoup de kilomètres. Mets-nous un peu de diesel, mets-nous un peu d'essence, mais parle-nous vrai, mets-nous une équipe qui rentre dans l'équipe adverse et qui montre sa supériorité. Je suis désolé de parler comme ceci d'un confrère. Je devrais pas, mais c'est fatigant. D'autant que ce confrère, quand il était derrière, en tant que consultant, il n'oubliait pas de nous fracasser, nous les entraîneurs français, qui étions si fébriles, qui étions si peureux, qui avions, pas beaucoup d'idées. Donc là, il est au milieu du guet avec ses joueurs et depuis qu'il est là, il a perdu 4 matchs et il en a gagné 4 en Ligue 1. Il a régressé par rapport à son prédécesseur qui lui avait fait 56% de victoire sur les 55 matchs de Ligue 1 que l'OM avait disputé sous sa responsabilité. Donc l'Olympique de Marseille part dans tous les sens, je suis désolé, dans tous les sens sauf dans le bon, celui qui va droit au but.
Il court à la catastrophe pour toi. Parce qu'Abibé, on va en parler dans un instant. On l'écoutera notamment après la rencontre hier où il assume la responsabilité de la défaite notamment et lui aussi a exprimé sa colère. Jérôme, tu souscris ce que dit Pascal?
Totalement. J'aurais pas dit mieux. C'est indigne pour moi, cette déclaration d'un dirigeant d'un grand club français qui a été mis là en place et qui fait des choix lui-même, qui est un peu la tête de la direction et du sport. C'est très étonnant et surtout le timing est très étonnant. Je rejoins Pascal parce que quand tu as ces responsabilités-là, tu prends du recul, c'est son rôle de prendre du recul et de réagir si vite en nous disant pendant ce temps-là qu'il est déjà passé par le vestiaire. Si Bey a pas le temps de parler à ses joueurs, que lui passe en même temps et qu'ils entendent tous le même discours, qu'est-ce que tu leur redis le lendemain pour remettre les mecs sur les rails, parce qu'il reste donc plus que 4 finales, plus 5, puisque la première a été perdue. Et surtout, tu te dis que la direction a pris la décision, après le match de Metz, d'aller en stage pour créer des choses, pour créer du lien.
De cohésion.
En stage, entre Metz
pour connaître un petit peu.
Et Lorient. Oui, mais très sympa, peut-être trop sympa, Marbella, pour le coup. Entre Metz et Lorient. Et ça, c'est pas les joueurs qui disent « on va en stage », c'est bien le staff. Donc, en fait, il se désavoue et il avoue. Il dit « on n'est pas des caves ». Non, Mais ça commence à y ressembler quand même.
Fred, alors juste je précise, Mehdi Benassia sur par exemple sur sa façon de voir le match à Lorient hier, il a quand même précisé aussi que c'était une belle équipe, Lorient.
Ouais, mais déjà c'est gênant de dire un club qui n'a rien à gagner. Un club a toujours une place à gagner. Je connais pas les montants, Pascal, mais tu peux confirmer que pour un club comme Lorient, 8e, 7e, 6e, c'est pas le même tarot.
Et puis Lorient voulait garder aussi sa.
Ils jouent l'OM
à domicile, ils ont joué l'OM. On rappelle, ils ont battu le PSG à domicile, ils ont battu Monaco à domicile. Et puis ils ont envie de faire des choses aussi pour Olivier Pantaloni, leur entraîneur qui partira à la fin de saison. Et on sait que c'est important pour les Merlus. Fred, toi sur le discours, toi t'as été dans des équipes, t'as eu des directeurs sportifs, des entraîneurs, des présidents. Le discours de Mehdi Benassia qui vient comme ça face au micro pour secouer le cocotier après une rencontre. Comment tu le recevrais si dans le vestiaire?
Ben moi je pense qu'il a bien fait. Alors contrairement à ce que disent mes collègues, et sur B je suis plutôt d'accord. Hein. Vraiment je comprends rien à ce qu'il propose et c'est compliqué. Sauf que Benatia il doit faire quoi? C'est-à-dire qu'il doit prendre un 2-0 et ne rien dire.
Mais il peut le dire à ses joueurs sans le dire à la presse. Hein.
Il est obligé d'essayer de crever l'abcès. Je sais que moi j'étais un joueur d'orgueil. J'espère qu'il pense que ces joueurs sont des joueurs d'orgueil également.
Mais s'il l'était, Fred, je te rejoins pas, parce que s'il l'était, des joueurs d'orgueil, mais ils font pas le match de merde qu'ils ont fait hier à Lorient. Donc ils n'ont pas d'orgueil, c'est pas comme ça qu'ils vont.
Ils sont obligés de tenter quelque chose. En fait, moi ce qui m'aurait choqué, c'est que Benatia arrive en disant non, on fait rien, on les laisse parler, on perd des matchs et on fait rien. Non, tu peux pas laisser le bateau couler complètement. Moi je pense que son rôle c'est justement d'essayer de piquer. Alors je suis d'accord avec toi, on l'a vu et il en a parlé, il y a certains matchs où on n'a pas vu beaucoup d'orgueil du côté de cette équipe, mais à un moment, le rôle d'un directeur sportif, c'est justement de piquer un petit peu, d'essayer de voir ce qu'il y a dans le ventre et d'expliquer les choses.
Parce que moi,
il y avait 5 finales à jouer. À un moment, tu peux pas laisser couler un navire. Je sais pas si c'est la bonne façon de parler ou la mauvaise par rapport à cette équipe, mais en tous les cas, ne rien tenter, pour moi, ça aurait été pire. Donc, c'est à dire que, et pour Lorient, je trouve que vous êtes un petit peu dur. Je suis désolé. Quand il explique que Lorient n'a rien à jouer, c'est pas dans le sens Lorient est minable, etc. C'est dans le sens, nous, on a plein de choses à jouer. On a une motivation qui devrait être énorme. Et finalement, les plus motivés sur le terrain, c'est Lorient. Et là, c'est pour essayer de piquer ses joueurs. Et je sais, en tous les cas, qu'avec moi, et avec la plupart des joueurs avec qui j'ai joué, bah, ça aurait marché, parce qu'à un moment, l'orgueil doit parler. Effectivement, pour l'instant, on l'a pas vu, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas être toujours spectateur de ce qui se passe. Et je pense qu'on lui reprochait encore plus de ne pas parler que de parler du côté de Marseille.
Oui, alors, vas-y, Simon.
Dans cette affaire, à tous les niveaux, il y a le fond et la forme, en fait. T'as le droit de perdre à Lorient, qui est une équipe séduisante lorsqu'elle se décide à jouer. T'as pas le droit de perdre comme ça quand t'es l'Olympique de Marseille. T'as le droit de tenter des choses, mais à 4 matchs, alors c'était 5 avant le début du match, 5 finales, comme les qualifiés Benassia. T'as le droit aussi de tenter autre chose que des coups de génie. Je salue le courage de Pascal, parce qu'en effet c'est difficile de parler de certains confrères, mais de temps en temps je me mets à la place de Pascal. C'est un peu agaçant de se faire expliquer qu'on n'a rien compris au football par des entraîneurs qui certes proposent des idées, mais qui n'ont accompli que peu de choses finalement au plan professionnel. Alors hier, on va pas rentrer sur le tableau noir, mais à Emerson dans une défense à 3, pour moi c'est un non-sens. Traoré, Piston, pour moi c'est un non-sens. Il y a le fond et la forme, parce que t'as le droit de perdre à Lorient, mais t'as pas le droit en effet de perdre en te faisant dominer comme ça. Il y a des symboles quand même dans cette équipe de Lorient, le match de Dieng, le match de Meïté, des joueurs dont l'Olympique de Marseille ne voulait plus parce que le projet était trop grand en fait pour ces mecs-là. Bon, ça dit quelque chose aussi d'une politique que Mehdi Benassia moi je trouve a remarquablement conduite jusqu'à ce mois de février. Mais Nassia, je pense qu'il n'avait pas envie de venir. Il s'est retenu longtemps, longtemps, longtemps. Et hier, tu le vois même dans son body language. Alors, on le voit pas à la radio. Il est très agité face au micro.
Il est encore nerveux. En tout cas, il a l'adrénaline d'avoir parlé dans le vestiaire.
Tu sens qu'il veut mettre fin à son intervention, mais qu'il en remet une couche parce qu'il a encore un truc à dire. Il est hors de lui. Il est furieux.
Je pense qu'il vole au secours de Bey,
Exactement. Et il sort l'extincteur parce que Bey, finalement, c'est le choix qu'il doit assumer, alors qu'il avait, on s'en souvient, annoncé son départ avant d'être retenu par Franck McCourt. Donc, et dans cette histoire, il y a, pour terminer, de filer à la métaphore, il y a le fond et la forme d'un classement, parce que c'est, rien n'est perdu pour l'OM. Ils sont à deux points de Lille. Ils ont du pot Lille.
Lille qui a fait nul hier contre Nice.
Il y a Monaco aussi qui arrive très vite. Et derrière, il y a d'autres matchs.
De points de l'OM. Lyon s'est placé au parc.
Vu les dernières prestations de l'OM, Simon, tu peux pas dire il reste encore une possibilité. Tu peux te le dire mathématiquement. mais les mentalités sont pas bonnes.
Ils sont surtout pas seulement dépendants d'eux. Ils sont pas surtout dépendants seulement d'eux, aussi des résultats des autres.
Les supporters marseillais, justement. Stéphanie nous appelle au 32-16. Salut Stéphanie, bienvenue dans les grandes gueules du sport.
Oui, bonjour.
Bonjour Stéphanie. Tu nous entends depuis tout à l'heure, Stéphanie. Oui. Est-ce que l'OM court à catastrophe? C'est vrai que tout le monde est un peu catastrophé, hein, là, ce matin.
Oh non, mais enfin, on le sentait venir, hein. Malheureusement, on avait beau essayer de se voiler la face, d'être là, chanter dans les tribunes, etc. Des prestations comme celle-là, on les sentait venir et franchement, il y en a marre en fait. Enfin, être supporter de l'OM, moi je dis, on devrait avoir des séances de psy gratuites pour se remonter. C'est plus possible. Enfin, franchement, faut s'accrocher. Enfin, je dis ça en plaisantant, mais c'est. Enfin, je sais pas. On n'a pas d'explication. On est là, on assiste au naufrage. On est toujours derrière l'équipe parce que Marseille supporte les supporters marseillais supportent le club, pas l'équipe. C'est comme ça. Mais là on en peut plus en fait. Moi je regarde les matchs avec la boule au ventre parce que là on est abonné, donc là évidemment hier on n'y était pas, c'était à Lorient. Mais chaque fois qu'on y va en fait on a la boule au ventre. On sait pas comment ça va se terminer. On les voit à peine courir sur le terrain, Pavard. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Il est en deçà de ce qu'il sait faire. L'autre jour, sa reprise là, qui remet en jeu Monaco. Enfin franchement, je sais pas, j'ai même plus les mots en fait.
Non, mais en fait, Stéphanie, c'est pour ça que c'était hyper important de t'entendre ce matin, parce que ton discours, c'est un peu celui qu'on voit là sur nos messages WhatsApp, notamment de la plupart des supporters de Marseille. Hein. Je peux citer par exemple Thomas. Thomas me dit: ce qui se passe à l'OM est d'une simplicité évidente. Les joueurs n'y croient plus. Le président a démissionné. Le directeur a été démissionnaire. L'entraîneur ressemble plus à un prof de philo. Bon, ça, c'est ce que dit Thomas. Dans la tête des joueurs, c'est juste installer le fameux à quoi bon. Et là, c'est fini. C'est-à-dire comme s'il y avait une motivation déjà un petit peu envolée. Je remercie Stéphanie pour son témoignage fort. Au 32-16, supportrice marseillaise. Les amis, on revient dans un instant. On va parler d'Habib Bey, notamment. On va rentrer plus en profondeur. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. On a juste un petit peu évoqué le sujet là par rapport à ce qui nous faisait réagir par rapport à ce que disait Mehdi Melassia. On va rentrer un peu sur le cas d'Habib Bey. Il faut parler des joueurs aussi. Hein, parce que là, on parle des dirigeants, de ceux qui sont aux commandes. Mais ceux qui sont sur le terrain aussi n'ont pas forcément été à la hauteur hier. L'OM court-il à la catastrophe? On vous attend au 32-16 sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, ce matin avec Fred Weiss, Pascal Duprat, Simon Dutin et Jérôme Pinault. Est-ce que l'OM court à la catastrophe? Marseille battu 2-0 à Lorient hier. Marseille à 2 points de Lille et de la 3e place du podium. Les Lillois accrochés face à Nice 0-0 hier. Franchement, on a beaucoup de messages, hein, sur WhatsApp au 32-16 également. Il y a beaucoup de colère chez les supporters marseillais, on le sent. De la résignation même chez certains. Nos collègues de la Provence titrent ce matin grotesque, hein, en grand, à la une du premier quotidien marseillais. Habib Bey, l'entraîneur de l'OM, après la rencontre, en colère, même s'il assume sa responsabilité après cette défaite.
Je suis très en colère aujourd'hui, vous le voyez. Très en colère sur les attitudes, oui. Et sur l'esprit qu'on doit avoir quand on est un joueur de l'Olympique de Marseille. Et ça, en tant que coach, je ne l'accepte pas. Donc je ferai des choix en ce sens. Je suis celui qui fait les choix. Les choix que j'ai faire ce soir ne sont pas les bons. Moi, ce que j'ai dit à mes joueurs, c'est qu'on va se coucher dimanche soir en étant peut-être 6e de Ligue 1. Et que si aujourd'hui, ça ne nous met pas un électrochoc, ça veut dire que concrètement, on n'est pas prêt et on n'est pas fait pour être en Ligue des Champions cette saison. Maintenant, ce n'est pas le constat que je tire ce soir. Je dis juste que demain soir, on peut être 6e de Ligue 1. C'est une réalité.
Demain soir, c'est aujourd'hui, évidemment, puisque Rennes peut passer devant, puisque Lyon, en cas de victoire au Parc ce soir, peut également passer devant. Et Lyon, Marseille peut être sixième. Les gars, les mots de d'Habib Bey, tiens, on peut réagir là-dessus. On a beaucoup parlé de Mehdi Benassia, on a beaucoup parlé de l'entraîneur. Les joueurs, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire des joueurs, Pascal?
Bah, les joueurs, t'en as certainement les trois quarts qui savent dès aujourd'hui qu'ils seront plus à l'OM la saison prochaine. Prenons le cas de Pavard. Il y a une option d'achat. Effectivement, l'OM va probablement ne pas lever cette option d'achat. Donc, psychologiquement, comment tu te trouves? Si t'as pas un ciment à l'intérieur du vestiaire, si t'as pas un esprit de groupe qui est donné par, insufflé par l'ensemble du club, si chaque fois que tu fais une mauvaise passe, c'est en plus souligné dans la presse, alors que tout le monde l'a vu, hein, parce que les 30 000 spectateurs ou 20 000 spectateurs qui étaient à Lorient hier, ont vu les erreurs des défenseurs marseillais. Par exemple, sur le deuxième but, ben c'est un cas d'école. Comment ils défendent? Qu'est-ce qu'ils ont foutu en stage? Franchement, comment il défend Balerdi? Il offre, la porte à Dieng pour qu'il aille marquer. Donc, comment voulez-vous? Bien sûr, on les stigmatise, les joueurs. Mais ils s'accrochent à quoi? De parler comme ça, parce que leur situation est pas précaire. Ils gagnent tous beaucoup d'argent, et notamment à l'OM. Bien souvent, bien trop d'argent par rapport à leur niveau. À l'OM.
Mais okay, parce que c'est un des clubs qui,
ils savent qu'ils ne seront plus là.
Ils sont départ aussi, hein. Voilà.
Il y a quelques mois, ils avaient un président. Il se trouve que le président, il est plus là. Parce que le directeur sportif a démissionné. Puis une fois qu'il a démissionné, le lendemain, l'actionnaire le remet en place. Et lui donne les pleins pouvoirs. Comment voulez-vous que les joueurs s'accrochent? Il y a rien, ils ne savent pas à qui s'adresser. Plus, quand ils s'adressent, ils se font défoncer.
Pascal, je suis à moitié d'accord avec toi. Je suis à moitié d'accord.
Pourquoi?
Parce que d'un côté, effectivement, je peux pas t'en vouloir de penser que les joueurs en ont marre d'avoir une situation aussi compliquée à Marseille. Pendant une saison, ils ont vécu ce que certains joueurs vivront dans toute leur carrière et peut-être même pas. Tellement c'est compliqué du côté de l'OM. Et ça, j'entends ce que tu dis, Pascal. Mais à un moment, t'es professionnel, t'es payé pour ça. Si à chaque fois que t'as un truc qui va pas, tu joues moins bien, tu donnes moins à fond, etc., c'est à n'y rien comprendre. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir des salaires à cette hauteur-là, et je te parle pas de gens lambda, je te parle de footballeurs qui rêveraient d'avoir des salaires à ce niveau-là, et ils sont pas capables de se donner à 200%.
Ah, je te trouve
un moment, c'est un vrai problème.
Dans toute ta carrière, t'as été à 100%, même si le vestiaire était pas
dedans. Moi, j'étais toujours pour moi, parce que mon orgueil de sportif voulait que je sois à 100%. Est-ce que j'ai été toujours bon? Non, mais j'ai toujours été à 100%.
Tu sais, c'est deux choses complètement différentes. Dans ta carrière de basketteur, Fred, est-ce que l'aspect psychologique a jamais compté?
Si. Dis-moi. L'aspect psychologique de la vie privée. J'ai joué à Limoges, où par exemple une année on n'a pas été payé 30% de notre salaire. On a fait que mieux jouer parce qu'on s'est ressoudé, parce qu'on était pro.
Ça dépend qui t'es aussi.
Mais c'est ce que je te dis.
Tu connais. Il y a une demi-explication. C'est peut-être des bons joueurs. Mais tous les six mois le groupe change.
Mais le problème, c'est ça.
Ce qui m'inquiète, et je vais venir au secours de Pascal, ce qui peut pas y aller franco, parce que c'est sa corporation. Mais un coach et un directeur sportif qui emmène un groupe en stage en Espagne, à Marbella, qui ose te dire, alors qu'il paye son pote pour venir donner un coup de main au club et le mettre sur un banc, bien trop cher lui aussi, il te dit que le stage, il a coûté au club.
Évidemment, par définition, il a coûté.
Tu peux aller ailleurs qu'à Marbella, ça te coûte un peu moins cher, et t'es pas obligé de payer non plus ton pote ce prix-là pour faire la fin du championnat.
Tu peux aller en stage à la commanderie, il y a ce qu'il faut.
Exactement. Et surtout, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'ils sortent.
S'ils l'ont fait le stage, c'est peut-être qu'ils ont senti quelque chose.
Ils sortent d'une semaine de stage, et dans ses déclarations, il dit, je suis en colère, et à partir de maintenant, donc il a attendu de perdre encore un match, je vais mettre des mecs qui ont la dalle. Mais purée, t'as fait quoi en stage? T'as pas discuté avec tes gars? T'as pas saisi et t'as pas compris avec qui tu pouvais aller finir la saison, aller à la guerre? Ou alors il n'y en a pas 11. Mais là, c'est très inquiétant.
Il n'y en a peut-être pas 11.
Et surtout, il y a un effet de loupe, on le sait, sur tout ce qui se passe à Marseille. Quand il y a un problème, c'est toujours plus grave qu'ailleurs.
Ils sont sans arrêt en train de dire l'Olympique de Marseille.
Et cet effet de loupe,
il a quand même posté il y a 5-6 ans, la glacière où il voulait être assis. Il y est là.
Oui.
Bah, il fait quoi?
Ah, mais en effet, il y a eu une volonté et il y avait un désir. Mais quand tu te retournes, finalement, tu te rends compte que finalement, les problèmes qui ont conduit Marseille à tout raser pour reconstruire, repartir avec Habib Bey, est-ce qu'ils étaient aussi graves que cela? Parce que Habib Bey était assez fier de rappeler aux journalistes que lorsqu'il est arrivé, il y avait un plus gros écart entre l'OM et la troisième place que désormais. Bon, il a gagné contre Metz et sinon, il y a trois défaites.
L'OM va moins bien et Rennes va beaucoup mieux.
Je te rejoins. En effet, tu rentres dans un stage dit de cohésion pour produire ce qui a été produit hier. Bon, c'est assez difficile à admettre pour les supporters, mais vous parliez des joueurs qui jouent souvent pour l'entraîneur. Alors, ok, il y a leur avenir, mais il y a aussi les joueurs qui savent qu'ils seront a priori là l'an prochain. Est-ce qu'on est sûr que ces joueurs-là, ils ont envie que Habib Bey continue et qu'en effet, est-ce qu'ils préfèrent pas finir 4 ou 5e ou 5 ou 6e, ou est-ce que ça les dérange?
Les états d'âme, ça me gonfle.
Habib Bey a montré au Stade Rennais qu'il a des principes de management qui passent ou qui dérangent, mais en effet, il n'a pas peur de se couper d'une partie de joueurs qui n'adhèrent pas à son. On l'a vu avec
mais
des
leaders. Mais on en reparlera dans quelques années quand il sera plus mûr. Quand il sera plus mûr, il ne fera plus des erreurs comme celle-ci, comme il a fait à Rennes, de stigmatiser les joueurs, de les montrer du doigt. À partir du moment où t'en montres un ou t'en montres deux, chacun des garçons qui sont dans le groupe considère qu'un jour ou l'autre, ça sera leur tour. C'est ça son erreur. Et vous savez quoi, l'OM a encore beaucoup de chance d'être troisième en Ligue 1. Il le doit à son calendrier, il le doit au fait qu'hier Lille a laissé passer un bon petit joker pour se mettre 4 points de matelas. Et puis ils le doivent surtout, ils le devront, ils ont cette chance d'avoir des supporters. Parce que les supporters, c'est ceux qui vont les agréger pour qu'ils fassent de bons résultats sur les 4 prochains matchs.
Eh bien, ça,
en leur mettant la pression et la ferveur populaire. Heureusement que l'OM a ses supporters, croyez-moi.
Les supporters, justement, ils sont très nombreux à nous appeler au 32-16 ce matin et on va les écouter. Laurent nous appelle des Pyrénées-Atlantiques, tiens, supporter marseillais. Salut Laurent.
Bonjour
Laurent. Bon, d'ailleurs, vous êtes très nombreux au 32-16 à nous appeler pour vous dire qui est pour vous le responsable. Pour toi, il est tout trouvé ?
Ben, pour moi, c'est la direction Longoria-Bénassien. Quand tu prends des joueurs en prêt, 6 mois, 1 an, faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, ils lâchent l'équipe. Les mecs, ils savent pas où ils vont être l'année prochaine. C'est un problème. Il y a trop de turnover, il n'y a pas de cohésion. Tu pars en cohésion à Marbella. Mais va en Tchétchénie. Les mecs, ils vont être dans un centre. Ils vont se là, il va y avoir de la cohésion.
Ouais, bon.
Marbella, c'est les vacances.
Ça t'empêche pas d'être performant, d'être prêté. Parce que 6 mois, tu joues aussi parfois ton avenir. Et tous les joueurs qu'on cite, ils n'ont pas tous été catastrophiques toute la saison. Donc, il y a des pics de performance. Alors, oui, en effet, là, on est dans un contexte où tu as l'impression qu'ils ont tendance à lâcher. Mais le prêt de 6 mois, un mec qui vient se relancer chez toi, dans un environnement qui correspond plus à la dimension.
Ça te permet d'avoir des joueurs que tu n'aurais pas normalement aussi. C'est un pari pour
Florent. Il faut arrêter avec ça. Lens, ils n'ont pas de prêt, ils ont des super joueurs, ils ont une super équipe, ils ont une cohésion. Nous, on a été chercher des noms ronflants. Pavard, me dites pas que l'année dernière, il était en finale avec l'Inter de Milan de la Ligue des Champions, et 4 mois après, il ne met pas un pied devant l'autre. Il y a un problème.
Il y a un problème qui est peut-être dû au contexte.
Après, Laurent, je suis pas persuadé que si tu transposes l'effectif lensois et tu le mets au Vélodrome avec le club, avec l'OM, avec tout le contexte, il fasse les mêmes performances.
Ça, c'est sûr même.
Tiens, Laurent était avec nous. Tony aussi, supporter marseillais. Okay. Là, salut Tony.
Oui, bonjour Tony.
Toi, tu veux pointer du doigt les joueurs surtout ce matin?
Absolument. Tu sais, tu peux faire venir Olympique de Marseille, Guardiola, Enrique, on n'avancera pas. Si les joueurs n'ont pas envie de courir, s'ils n'ont pas envie de faire des efforts, on n'arrivera pas. On tape toujours sur l'entraîneur. Certes, l'entraîneur, il a une partie de responsabilité quant à son choix tactique et au choix des joueurs. Mais à un moment donné, il faut courir, les gars. Il faut courir.
Oui, mais Tony, l'entraîneur, il inspire les joueurs, il entraîne les joueurs, il emmène les joueurs avec lui. Et tu cours aussi pour le coach qui te donne des consignes, qui te fait croire que t'es bon, que t'es important, que grâce à toi, on va gagner. Et là, je parle sous le contrôle de Pascal. Oui. Il y a des mecs avec qui d'autres avec qui ça clique pas, mais il y a un lien quand même entre la performance et l'entraîneur.
Je pense que le stage qu'il y a eu à Marbella, à Bimbei, qui est quand même sa qualité principale, c'est d'avoir un bon discours. Je pense qu'il a eu les joueurs individuellement, qu'il a dû parler, de dire pourquoi ça n'avance pas, il faut faire aussi, il faut faire ça, qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il a fait son travail, mais après, ces joueurs, ils n'ont pas envie. J'étais moi-même joueur, pas professionnel, mais ce semi-professionnel. À un moment donné, on sait très bien, quand les joueurs n'ont plus envie, s'ils ont envie de te faire la carrière, ils te font la carrière. Voilà. Après, on me dit, ouais, c'est vrai, parce qu'ils ont bientôt fini la saison, ils s'en foutent, ils savent qu'ils vont aller à droite, ils savent qu'ils vont aller à gauche. Non, t'es professionnel, tu vas jouer jusqu'au bout.
Non, mais en fait, la problématique, Tony, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que, où sont passés les cadres, en fait, de l'OM? Parce qu'avant,
qui sont les cadres?
C'était Højbjerg, c'était Balerdi, c'était Rabiot, les gars. Ouais. Rabiot qui est parti, qui est rappelé par beaucoup de supporters marseillais sur WhatsApp également.
Fallait la trouver, celle-là.
Mais pour beaucoup,
un mauvais garçon, la première journée de Ligue 1. Il vantait ses mérites et ses qualités toute la saison dernière. Et voilà, pas parce qu'il s'est pris de bec avec un de ses partenaires, il était tout d'un coup devenu
partenaire qui est l'autre leader, lui leader de jeu, et qui n'est plus là sur la pelouse depuis un certain temps. Et finalement, tout le monde disait Greenwood, c'est un souci. Non, c'est pas un souci. Quand Greenwood est plus là, ça va beaucoup moins bien.
Tiens, j'ai Fred sur WhatsApp qui me dit j'ai la solution pour sauver Marseille, que les médias arrêtent d'en parler, car j'ai l'impression que Marseille c'est la série Dallas, mais pas du foot. Non, mais juste pour que ce soit clair, nous ça nous amuse pas du tout de taper sur Marseille. On n'est pas là pour sur l'OM.
Je rappelle que moi je suis cette année supporter de l'OM.
Non, mais voilà, il se trouve que cette année c'est une saison montagne russe. Souvent, de par la communication de l'Olympique de Marseille et de par les résultats, si les résultats étaient bons, on serait là.
C'est une saison à devenir fou, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une saison que tu vis pas normalement dans une carrière de sportif. Hein. En une saison, tu vis des choses qui sont complètement fous.
Ce qui est d'autant plus fou et frustrant et qui me met en colère, moi, en tant qu'amoureux de ce club, c'est non seulement l'équipe est pas bonne, mais en plus, tu as l'impression que c'est les gens qui la dirigent et les gens qui l'entourent qui la rendent encore moins bonne par les déclarations, qui se mettent le feu tout
Jérôme,
seul.
Jérôme, moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que, je le répète, il y a cette
idée de... Cette équipe a une grande qualité d'effectif, mais elle est perdue.
Il y a cet effet de loupe, encore une fois, on est bien placé, ça fait 20-30 ans, quand il se passe quelque chose à Marseille, ça nous intéresse les médias, parce qu'il y a cette passion autour de ce club mythique.
Après, il se passe toujours quelque chose à Marseille aussi.
Là où je suis pas d'accord,
c'est pas nous qui créons les mouvements à Marseille.
Non, bien sûr.
C'est pas nous qui décidons que Mehdi Benatia démissionne, revienne, finalement, Pablo Longoria part.
Que Rabiot est un mauvais garçon, alors c'est super.
Les arbitres.
On s'empare de cette actualité qui passionne les gens, qui passionne les amoureux de football. Mais l'équipe marseillaise, elle a produit d'excellents matchs. Et souvenez-vous, ils sont à quelques secondes de remporter le trophée des champions en janvier contre le PSG. Et ils font un excellent match.
C'est peut-être là l'erreur.
L'erreur,
c'est qu'ils ont viré Dezerbi. Dezerbi qui gagnait 56,5% ses matchs en Ligue 1. 32 victoires, 8 nuls, 15 défaites.
Pascal, je suis moi d'accord avec toi. Encore une fois, à Marseille, quand tu perds deux matchs, c'est comme si tu en avais perdu 15 ailleurs. Et Dezerbi, finalement, on se rend compte que c'était pas si mal que ça. Ouais. Et que bien qu'il ait fait quelques déclarations un petit peu dérangeantes après des matchs où il était déçu, finalement, c'était quand même un leader qui tenait son vestiaire et qui arrivait à produire de grandes performances de temps en temps avec un groupe qu'il avait construit.
Merci Laurent, merci Tony, supporter marseillais venu au 32-7. Tiens, il y a Ismaël aussi qui nous appelle. Salut Ismaël.
Oui, salut à tous.
Bon, on vous écoute tous ce matin. Il y a de la colère, il y a un peu de la résignation chez certains. Ismaël, comment tu trouves la situation, toi ? T'as l'impression que ton club court à la catastrophe ?
Alors, moi, ce que je ressens, je pense que le club, que les joueurs sont extrêmement traumatisés par tout ce qui s'est passé cette année. Et je pense que le fait, déjà, n'oublions pas, d'être sorti par la petite porte de la Ligue des Champions à la 25e place, dans des conditions ubuesques, avec un gardien de l'autre côté qui marque à la dernière seconde, l'élimination de la Coupe de France et tout ce que ça a créé, le départ de Longoria, le départ de Dezerbi, je pense que les joueurs, ils sont traumatisés. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une partie des joueurs qui n'ont peut-être même plus la tête à Marseille et qui se voient déjà ailleurs l'année prochaine. Et ceux qui sont là, ils ont tellement plus de visibilité, de certitude de ce qui va se passer l'année prochaine, qui sera le directeur sportif, qui sera l'entraîneur. Et ils ont vu, en fait, le cataclysme que ça a provoqué, que je pense que les mecs, ils ont plus rien dans les jambes. Ils savent pas avec qui ils vont partir à la guerre l'année prochaine pour la Ligue des Champions. Et peut-être que, inconsciemment, peut-être qu'ils ont même pas envie d'y aller en Ligue des Champions. En se disant, c'est chaud, on sait pas si on aura le niveau l'année prochaine. Cette année, on avait quand même des bons joueurs, on n'a pas réussi et ça a été un cataclysme. Peut-être que inconsciemment, les mecs, ils ont plus envie, quel que soit le salaire qu'ils perçoivent.
Non, mais en fait, ce qui est terrible, Ismaël, c'est qu'on en arrive à un point avec l'OM là, que où justement, certains supporters commencent à douter de l'envie des joueurs d'aller en Ligue des Champions. Ce qui est terrible quand tu es à l'OM quand même, et tous les traumatismes dont tu as parlé, il faut les rappeler. C'est l'élimination piteuse en Ligue des Champions, souvenez-vous à Bruges. C'est l'élimination également en Coupe de France au tir au but contre Toulouse. C'est un nombre de matchs incalculables perdus ou accrochés à la fin de match.
Cette année, énormément de traumatismes. Ça, c'est clair.
Et les prises de décision de par la direction qui font suite à ces grands événements qui sont déjà très difficiles et traumatisants. Ça peut pas marcher quand tu mets de l'huile sur le feu. bah, tu te brûles et ça devient ce que ça est en train de devenir, c'est-à-dire que tu vas louper ta saison.
Merci Ismaël d'être venu au 32-16 et merci à tous. Désolé, on n'a pas pu tous vous reprendre, on a eu beaucoup d'appels au 32-16. Évidemment, il y a l'after aussi ce soir. On va continuer de parler tout au long de la semaine de ce qui se passe à l'OM. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder le nouvel épisode de La Nouvelle Voix de l'After sur YouTube. Vous savez que Nicolas Jamin, Walid Acharchour, Kevin Diaz cherchent une nouvelle voix au micro. Mais là, ils étaient à Rennes. Mais franchement, ça vaut le coup. Il y a quelques spécial guests, notamment, c'est intéressant. Je vous invite à regarder, c'est très efficace. Allez, les amis, on revient dans un instant pour le zapping. On va parler de judo, on va parler de rugby, on va parler de basket. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport dans un instant sur le ring. Préparez-vous à ne plus dormir puisque c'est le début des playoffs NBA pour Victor Wembanyama la nuit prochaine à 3h face à Portland pour ses Spurs. Wemby peut-il devenir le numéro 1 du sport français cette saison? Vous votez sur le compte X des grandes gueules du sport. Et pour l'instant, je peux te dire que le sondage va te faire plaisir, Fred. Mais tout de suite, les GG, vous me dites si vous vous en foutez ou vous en foutez pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Tiens, je m'en fous pas. C'est le jour de Roman Dico au championnat d'Europe de judo à Tbilissi. Fred.
Je m'en fous.
Oh bah, t'es terrible toi, Pascal.
Non, je m'en fous pas parce que clan des titres.
Bah oui, c'est une championne, Jérôme.
Je m'en fous pas, non.
Simon.
Je laisse.
Et moi, ce que j'aime, c'est quand même ta sincérité, Fred.
Bah, tu me poses une question, tu veux que je mente.
Et Simon, ça a son sens de la politique, je laisse. Ouais. C'est en plus de 78 kilos à 26 ans, donc Roman Dico est double médaillé de bronze olympique dans la catégorie. Elle a même été sacrée championne du monde en 2022. Morgane Maury est sur place pour RMC. Salut Morgane.
Gamar Joba, comme on dit ici. Bonjour à tous.
Ah, celle-là, on l'avait pas. On pourra le dire à Gvichak.
Eh ben, Gamar Joba, toi aussi.
Gamar Joba.
Tu vas nous faire vivre la journée de Roman en direct et tu vas intéresser Fred, puisque Roman peut devenir la première Française à gagner 6 titres européens. Elle est imbattable sur le vieux continent, Morgane?
Oui, en Europe, c'est très difficile. Roman, sur sa carrière senior, elle a gagné 126 combats. Il y a 18 défaites, seulement 6 contre des Européennes. C'est rarissime, c'est arrivé en 2023 au championnat du monde. Elle a été championne du monde en titre. Mais elle avait fait de mauvais choix dans sa préparation. Elle avait perdu contre l'Italienne dès le premier tour de ce mondial. C'est la dernière fois que dans une compète individuelle, sur un grand championnat, elle a perdu contre une Européenne. C'est rarissime. Il y a une seule fille européenne qui l'a battue 2 fois, mais qui n'est plus en activité. C'est la franco-turque Keira Saïd, qui s'appelait Keti Maté. Non, Roman Dico, c'est vraiment son jardin, le championnat d'Europe. Elle a gagné tous les championnats d'Europe auxquels elle a participé depuis qu'elle est cadette. Elle a gagné en cadette, en junior et 5 titres chez les seniors. Personne en France n'a fait mieux, garçons et filles confondus. Le maximum, c'est 5 titres européens. Il y a 9 femmes françaises qui sont à 5. Si elle gagne, c'est la plus haute dans ce domaine, hommes et femmes confondus en France. Elle a déjà gagné son premier combat et dans quelques secondes, elle va monter pour son quart de finale.
Parfait, on suit ça avec toi. Donc, Roman Dico, pour l'histoire, aujourd'hui imbattable depuis les cadettes en Europe. Tu te rends compte, Fred?
C'est beau. C'est magnifique.
Non, mais tu ne connais pas la défaite. C'est vie ma vie de David Douillet. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau mondial et aux Jeux Olympiques, c'est évidemment un autre niveau parfois, mais elle a déjà montré qu'elle pouvait être au sommet. Ensuite, la journée de Roman Dico, évidemment, on zappe. Je m'en fous pas, les amis. Pas de nouveau trophée pour Antoine Griezmann avec l'Atlético. Pascal.
Quel dommage.
Fred.
Bah, je m'en fous pas, là.
Simon.
Je m'en fous pas.
Jérôme.
Moi non plus. Ça m'en fout.
Pour sa dernière saison avec les Madrilènes avant de rejoindre Orlando, le Français rêvait de soulever la Coupe du Roi, la Copa del Rey, hier soir face à son club formateur, la Real Sociedad. Résultat 2-2 et une défaite au tir au but. Griezmann avait offert une passe D avant d'être remplacé à la 70e. Dernière chance de titre pour lui, c'est la Ligue des Champions. Demi-finale dans 10 jours face à Arsenal. Jérôme, t'es triste?
Ça me rend triste parce que c'est un grand bonhomme, c'est un grand monsieur du foot français, oui, et qui a donné tellement à ce club. J'aurais aimé qu'il sorte sur un trophée. Alors, il reste la Ligue des Champions.
Attends, il peut rester sur le
jumeau. Et voilà, et c'est déjà un super challenge, mais celle-là, on va dire qu'elle était plus à sa portée, et ça aurait été très symbolique.
Mais partir sur un titre comme ça, ça aurait été génial. Bah ouais, la Ligue des Champions, en plus, il y avait tout un storytelling qui était intéressant juste avant de partir à Orlando. Oui,
son futur club, magnifique.
Orlando?
Oui. La couleur de ses cheveux correspond à la couleur de son fils.
C'est magnifique.
Ah bah, j'y ai pensé longtemps.
Mais je comprends.
J'ai souvent voulu.
Tu aurais dû le faire aussi.
C'est des informations déterminantes que tu nous donnes.
Mais évidemment.
Pascal, tu y crois, Griezmann qui part sur un titre en Ligue des Champions?
Non, mais ça fait depuis septembre que je vous dis que le PSG va faire le doublé. Donc, ah oui, Griezmann, d'accord. Il a beau partir, c'est pas lui qui la gagnera. Voilà.
Calme-toi, Pascal.
Non, mais arrêtez. Voilà, vous êtes. Non, mais franchement, c'est dommage hier, mais il faut reconnaître que la Real Sociedad a fait un match, qui a contrarié l'Atlético. Et malheureusement, ça s'est joué au tir au but. C'est comme ça, c'est la loterie. Dommage pour Griezmann, ça c'est vrai. Voilà, parce
avec
que
une
c'est
belle sortie du gardien de l'Atlético, quand même, qui leur coûte un pénalty.
Comment il s'appelle, Georges?
Juan Mousso.
Dès qu'on peut, on fait pas
le tu peux nous le refaire, Georges, s'il te plaît.
Comment il s'appelle? Apparemment, Jérôme, si le PSG gagne la Ligue des Champions, on se rase la tête.
Non? Et Pascal aussi.
Moi aussi. Non, moi, je me fais pousser des cheveux. Apparemment, je vois des entraîneurs, plus je les vois sur le banc, plus ils ont de cheveux. Je comprends rien. Moi, j'étais sur le banc, plus je les perdais. Moi, mes collègues, aujourd'hui, plus ils ont de cheveux, plus on en a encore.
Juste l'Atlético, donc je vous le disais, qui va affronter Arsenal en demi-finale dans 10 jours. Arsenal qui joue un match déterminant aujourd'hui dans la course au titre en Première Ligue face à Manchester City à 17h30. Hein. Je vous rappelle qu'ils ont 6 points d'avance sur City. City qui a un match en moins. Hein. Donc c'est à Manchester. Match brûlant pour savoir si les Gunners.
Plus que 3 demain matin.
Vont enfin y arriver. Ah ouais, d'accord, tu crois pas pour Arsenal. Ah ouais,
ils sont dans une super spirale là, Arsenal. Ouais. Bon, j'ai hâte de voir la demi-finale contre l'Atletico, ça va être du grand match.
Hein. Vous y croyez? Vous pensez que ça va être la malédiction d'Arsenal encore?
Bah, il va falloir que ça s'améliore.
Mais ça existe, ça, les malédictions?
Ça arrive beaucoup.
Tu penses? Sachant que grâce
au soleil, hein, parce que l'entraîneur de Manchester City, Guardiola, nous a dit, il a répondu à une question des confrères anglais, comment expliquez-vous le sursaut et le regain d'énergie de vos joueurs? Le soleil. Mais très sérieusement, c'est le soleil.
Jérôme, on te remercie vraiment ce matin.
Pourtant, à Marseille, il y a le soleil.
Il y a beaucoup de précisions dans ce que je dis, Jérôme, franchement, ça nous touche.
Non, mais c'est un rapport avec l'OM, parce que l'OM,
il y a pas de soleil.
Il y a soleil, pourtant, ça va pas, tu vois, donc ça n'a rien à voir, en fait.
Mais c'était à Lorient. À Lorient, il y a moins de soleil.
Ça passe à 10 000 trucs. Non, parce qu'en fait, je voulais dire que.
À Saint-Nazaire, il y avait de la brume.
Non, il faisait beau pourtant, mais nous, c'est pas le soleil non plus.
Dans sa tête, il y en a un peu peut-être.
On a besoin de toi. Pascal, là-bas.
Allez les amis, on revient dans un instant, on va parler de Wemby la nuit prochaine. Ça y est, c'est le début des playoffs, les choses sérieuses commencent. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.